Bonsoir et bienvenue. Au nom du Centre Voltaire Monde et du Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue, à cette soirée de discussion sur le Mali, Maghreb et autres enjeux de politique variable dans la mondialisation en crise, nous avons la chance d'accueillir M. Aziz Salmon Fall. Alors, d'abord, juste en deux mots, vous présenter le travail du Centre Europe Tiers Monde, peut-être pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Donc, le but du Centre Europe Tiers Monde, dit cette team, c'est de contribuer au défi, au débat critique, pardon, sur ce monde en mal développement, à travers des publications de livres et de cahiers sur les droits humains, un centre de documentation qui est accessible à tous, un travail de lobby au sein du Conseil des droits humains et un soutien et encadrement de délégations étrangères lors de leur passage à Genève dans les méandres des institutions onusiennes. Bien entendu, comme toute organisation, nous sommes toujours à la recherche de membres, donc vous pourrez vous inscrire si vous êtes intéressé au sortir de la conférence au stand qui se trouve à l'entrée. Quelques mots pour vous présenter M. Aziz Salmon Fall, ici présent. Donc, Monsieur Salmon Fall est un politologue internationaliste d'origine sénégalaise et égyptienne. Il enseigne la science politique, l'anthropologie, la relation internationale et le développement international à l'Université du Québec à Montréal, au Canada. C'est un ancien coordinateur du réseau québécois contre l'apartheid et surtout le fondateur et membre du GRILA qu'il se chargera de vous présenter lui-même. Je laisse maintenant le soin à mon collègue Deo Akizamana, président fondateur du Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue, de présenter peut-être son association en quelques mots.
Bon, je dirais que je vais tout juste présenter l'organisation à travers les actions que nous avons réalisées déjà avec le professeur Fall, parce qu'il y a en 96, hein, n'est-ce pas, en avril 96, à Genève, Fall Aziz a été le premier à sauter dans l'avion depuis Montréal pour venir m'aider à organiser une toute première réunion burundo-burundaise sur la fin et la nécessité de mettre sur pied un processus de dialogue pour le Burundi qui traversait alors une période effroyable de guerre civile. Et notre atelier se donnait pour ambition de rappeler, de dire aux belligérants qu'il n'y aurait pas de solution autre qu'une solution obtenue par la négociation, par le dialogue politique autour d'une table. Fall Aziz est donc venu juste au dernier moment, et puis, suite à cette démarche, c'est long à raconter, nous nous sommes rendus compte finalement que ça a déclenché un processus important pour l'avenir du Burundi, parce que les participants que nous avions invités sont les mêmes qui ont dû décider, ce n'était pas encore le cas, d'aller à Arusha pour discuter, mettre fin à la guerre par la négociation et non plus par les armes. Le concept que Fall Aziz est venu nous présenter a été par la suite, il le dira lui-même, imité, j'allais dire dupliqué par certaines diplomaties de certains pays pour proposer des voies de solution en Afrique. Alors, c'est vous dire combien je suis heureux de l'accueillir aujourd'hui et donc organiser cette réunion avec le CETIM. Et je termine en vous disant que, je termine par où j'aurais dû commencer. Le CIRID, c'est une organisation que j'ai créée il y a 17 ans, uniquement pour dire aux gens que, quelles que soient les difficultés à rencontrer et quel que soit le problème, le dialogue me semble être la meilleure voie d'issue à adopter. C'est ce que nous venons de passer 17 ans à raconter, à conseiller, à suggérer, que ce soit via des conférences comme celle-ci ou que ce soit via surtout les side events que nous organisons souvent au Palais des Nations Unies en parallèle avec le Conseil des droits de l'homme qui se tient d'ailleurs 22e session dès lundi prochain. Voilà donc, mesdames, messieurs, je vous remercie, à la suite du remerciement présenté par ma collègue, d'avoir été ici et d'être venus nombreux. Pour en savoir plus sur cette organisation, vous allez voir ces papiers de cette couleur qui donne notre bilan, nos projets pour les années à venir, mais aussi il y a une newsletter qui s'appelle African Caucus, que nous avons créée pour aider les organisations africaines, les Africains, à profiler l'image de l'Afrique à Genève. Maintenant, je laisse la parole à Fall Aziz.
Merci beaucoup. Je suis vraiment très content d'être de nouveau à Genève et surtout très touché que vous ayez pris la peine de venir un vendredi soir m'écouter dans mon petit délire verbal. Je suis d'autant plus touché que c'est à Genève que j'ai eu l'honneur de coordonner pendant plus d'une dizaine d'années avec un collectif de 20 avocats qui luttent sur les questions de l'impunité au Comité des droits de l'homme, qui a effectivement marqué cette première contre l'impunité en Afrique dans l'affaire du président Thomas Sankara. Et j'avoue que c'est un peu dans cette lignée-là que non seulement j'adresse les salutations des membres du groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique, mais aussi tout le collectif international Justice pour Sankara, sachant pertinemment les liens qui nous lient. Genève, pour nous autres, Africains, est tout à fait particulier parce que c'est aussi l'endroit, à quelques encablures d'ici, où a été assassiné Félix Moumier. Et nous parlons aujourd'hui de sorte de bégaiement de l'histoire, une situation où la France se retrouve un peu dans un rôle historique très particulier qui m'amène à poser une réflexion que j'aimerais partager avec vous parce que je trouve que les lignes de fracture nouvelles qui s'ouvrent aujourd'hui dans cet espace du Maghreb et du Sahel doivent être explicitées à la fois sereinement parce que ils sont éminemment dangereux, sans nécessairement tomber dans une théorie du complot. Ils sont dangereux d'abord parce qu'ils divisent la frange même progressiste, c'est-à-dire les gens qui considèrent dans un esprit internationaliste la question du que faire. Et que faire devant à la fois l'instrumentalisation du désordre, que faire dans la situation où nous avons échoué pour concrétiser le développement et cet échec du développement permet un terreau extrêmement fertile pour le terrorisme. Et surtout, c'est l'enjeu sécuritaire qui est devenu cette nouvelle conditionnalité qui, pour nous autres Africains, a été déjà très symptomatique de ce grand conflit interafricain de l'Afrique des Grands Lacs, où nous avons eu notre première guerre interafricaine, un fait tout à fait inusité dans les sociétés africaines. Je disais que l'essentiel des internationalistes aujourd'hui était divisé, parce que, évidemment, la question de la pertinence ou non de l'action française, la façon par laquelle on peut en traiter, c'est-à-dire de façon évidente une forme de néocolonialisme, doit être, je crois, beaucoup plus analytique, dans le sens qu'il y a aujourd'hui, je crois, dans ce 21e siècle, un repositionnement qui se fait à la faveur, d'une part, d'un pavage étatique que pose la question israélo-palestinienne, et un repavage des États et des autocraties arabes. Il y a, au-delà de tout cela, qui est donc de vieux problèmes, la question même de cet ordre mondial qui veut l'Afrique sans les Africains, c'est-à-dire l'Afrique des ressources. Et il y a le redéploiement de l'impérialisme qui, dans ses formes renouvelées, donne l'impression d'être une sorte de bégaiement de l'Empire, entendez là principalement le faisceau occidental sénile et en déclin, mais qui en réalité, d'après moi, est en train d'évoluer vers ce que, à défaut, j'appellerais le mégalo-ensemble, c'est-à-dire une nébuleuse d'oligarchie, de forces transnationales et d'intérêts imbriqués dans celle de feu le tiers-monde, qui fait que certains pays émergents roulent un jeu qui, sans avoir l'hégémonie militaire, vient cautionner et revigorer un capitalisme en crise. Ceci se fait sur les décombres d'un projet de société qui a échoué. Et je crois que pour nous, la ligne de fracture, elle est ancienne. Et donc, je voudrais très rapidement prendre la peine d'expliciter la construction même de l'Afrique, de l'Orient et de l'Occident. Parce que ceux qui ont intérêt à ce que nous vivons cette crise d'aujourd'hui le font dans une acception civilisationnelle. Le problème ne se pose pas en termes civilisationnels, mais ils ont tout intérêt à le faire dans cette acception, parce qu'à ce moment-là, ça justifierait non seulement l'action militarisée, mais ça empêcherait l'inclinaison progressiste de l'humanité, alors que le développement prédateur est arrivé dans une impasse. Alors, je trouve que ce petit rappel historique est important. D'une part, par panafricanisme, l'État naît dans les sociétés africaines avant qu'il n'existe en Orient et en Occident. N'en déplaise aux lectures eurocentriques, l'État est de nature kémitique. Le père A, le pharaon, existe dans un État qui construit administrativement, fiscalement, et qui développe les formes de surplus de type plus ou moins tributaire dans toute la péninsule qui est l'actuel Soudan, la moitié de l'Égypte, une bonne partie de la Corne de l'Afrique, à un moment où les autres sociétés n'ont pas cette sophistication de l'État. L'Afrique va connaître deux types de sociétés, les sociétés à État et les sociétés sans État. Parmi ces sociétés à État, l'Empire du Ghana constitue l'espace dans lequel a lieu la crise d'aujourd'hui, où on veut faire surgir une sorte de Sahelistan, ou de Malistan, pour faire plus petit. La confluence de l'histoire nous amène à regarder la façon par laquelle l'Orient s'est elle-même construite. Or, lorsque Ghana est construit, il est construit sur un système extrêmement sophistiqué, étatique, avec des modes de régulation contre les abus du prince, mais il permet de mettre en rapport des sociétés qui s'ignorent. En d'autres mots, il permet de mettre en rapport des produits par des caravaniers, principalement arabes et amazirs. Les populations négro-africaines sont dans ce rapport de médiation et d'échange. Elles ont un rapport à la terre elle-même très complexe, mais qui n'est pas basé sur la propriété foncière. Et surtout, cet échange permet de mettre en lien les sociétés orientales qui n'ignorent pas la magnificence de Ghana. Et nous avons bien des témoignages des premiers écrivains arabes et négro-africains. Le grand empire arabe qui se met en place dans un espace d'abord omeyyade, puis dans un espace abbasside. Dans les deux cas, il provoque l'érosion du pouvoir de Ghana, il permet évidemment sa conquête et il permet la conquête de l'espace méditerranéen. Et comme vous le savez, cet espace irradie une grande partie de l'Inde jusqu'à la Chine, le sud de l'Espagne, etc. Ce que cette culture, qu'on va qualifier d'almoravide, apporte en Occident, ce sont les fondements mêmes des formes industrieuses essentielles au capitalisme. Il est clair que la lecture de Polanyi et de Brodel sont essentielles, qui mettent le cristal de ce capitalisme dans un espace méditerranéen vers l'Italie, Florence, etc. Mais l'apport ibérique est incontestable. Les formes que la culture orientale impose, le moulin à vent, le moulin à eau, la brique, la poudre à canon, l'astrolabe, la boussole, le gouvernail axial des tambours, etc., etc. Les chiffres que nous utilisons sont d'un apport extraordinaire et façonnent une bonne partie, non seulement de la traduction des œuvres qui existaient dans les périodes antiques en Occident, mais façonnent carrément l'idée même d'Occident. Il n'est donc pas surprenant que cet empire qui s'installe et qui, malgré le fait de sa scission en khalifat opposé sur des bases chiites, sunnites sur lesquelles on peut revenir, va contribuer à l'écroulement de Ghana et à l'émergence de l'empire du Mali. Et cet empire du Mali est basé sur la charte du Mandé, l'une des premières écritures historiques des droits humains, encore qu'en Occident, on ne reconnaisse pas les droits homéomorphes, c'est-à-dire les autres systèmes d'acception des droits humains qui existeraient dans d'autres sociétés extra-occidentales, probablement avant la Magna Carta ou en tout cas son contemporain. Sundiata Keïta, de son nom Simbo, maître des chasseurs, inscrit cette longue dynastie. Et le système qui était basé sur l'or qui existait jusqu'en Orient, l'Eldorado réel, va continuer sous l'Empire du Mali, au point que Kankan Moussa, lorsqu'il fait son grand pèlerinage vers la Mecque, emporte une quantité d'or faramineuse qui fait basculer les cours de l'or en Orient. Beaucoup plus tard, et ce n'est pas nécessairement reconnu par l'historiographie, Bakari II envoie deux expéditions vers l'Amérique qui ne sont jamais revenues, mais qui sont documentées. La magnificence de ces sociétés qui s'ignorent sont des sociétés très très importantes et elles sont basées sur des modes de régulation où les abus du prince ne sont pas possibles. Ce sont ces sociétés qui vont être déstructurées par l'esclavage, l'esclavage arabe, mais aussi les modes de sociétés théocratiques, c'est-à-dire les royaumes qui vont essayer de construire à la suite de l'espace almoravide des espaces théocratiques dans l'espace sahélien. Et donc, on a une sorte de répétition, puisque le terreau pour l'existence de ces royaumes et ces monarchies religieuses correspondent à un idéal. Et c'est cet idéal qui va très rapidement s'éroder, jouant un double jeu, soit de cooptation lorsque la puissance occidentale fait la reconquista, et donc lorsque les Ibériques se vengent de leur assujettissement, il y a leur découverte du monde, et il y a surtout à ce moment, comme vous le savez, la découverte de l'Afrique, qui est accordée par une bulle papale au Portugal. C'est la bulle Intercetera. Ce traité qui donne l'Amérique à l'Espagne et l'Afrique au Portugal est très important parce qu'il marque le début d'une longue odyssée qui est donc la ligne de fracteur d'un système monde qui va déstructurer les sociétés africaines avec l'esclavage, puisque la périphérie devient l'Amérique, et toute cette zone va subir cet effort très difficile de syncrétisme, de résistance, de collaboration, qui n'est pas sans rappeler tout ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, c'est un terreau qui est vraiment travaillé. La colonisation qui arrive pour remplacer la perte des Amériques instaure dans cet espace enclavé du Mali une très brutale mise en valeur où les puissances qui sont défaites malgré de grandes résistances, donc Samori, Babemba, etc., vont permettre le capitalisme français et le revigorer. Les luttes de décolonisation vont se faire sous le RDA, c'est-à-dire le Rassemblement démocratique africain. Et la trahison des élites africaines, divisées déjà, comme nous sommes aujourd'hui, entre le groupe de Monrovia et le groupe de Casablanca, vont faire que les Maliens vont arriver avec une nébuleuse d'indépendantistes qui n'étaient pas prêts à accepter le jeu néocolonial, et c'était la fameuse loi cadre de Gaston Defferre, qui posait ce référendum dans lequel seule la Guinée a eu le courage de rompre avec la France. Et cette rupture, elle la paiera chèrement, la France allant jusqu'à imiter les billets de la Guinée pour faire tomber l'économie guinéenne. Le Mali sera lui aussi trahi. Modibo Keïta étant lui-même trahi par les Sénégalais et les Français. Je tiens à revenir sur ces questions parce que, évidemment, elles sont très délicates. Pour moi, il y a deux Soudans. Il y a ce Soudan français et il y a le Soudan anglais. Et les deux lignes de fracture, c'est-à-dire la façon par laquelle on sème la zizanie, on fracture ces deux sociétés, ces deux formations sociales, sont tout à fait symptomatiques de la façon par laquelle l'impérialisme procède. Lorsque Modibo Keïta et ses camarades sont expédiés par Étienne de Bois-Lambert vers le Mali garde pour lui seul l'hymne national, l'hymne fédéral, il veut à jamais tourner la page du Soudan. Et je vous lis la phrase que Modibo Keïta écrit en janvier 1961 à la France. Il dit « À l'heure qu'il est, l'ambassade de France en République du Mali est informée par mes soins de la décision de mon parti, de mon gouvernement, de voir la France évacuer les bases militaires de Bamako, de Kati, de Gao et de Tessalit, qu'elle occupait du fait des accords franco-maliens signés à Paris le 22 juin 1960 entre elle et la Fédération du Mali et qui deviennent caduques après les événements du 19 au 20 août 1960 et l'acte de reconnaissance par la France du gouvernement du Sénégal, acte qui consacre la dislocation de la Fédération du Mali. » Ceci est déjà le glas du projet confédéral panafricain. Et donc les micronations qui vont naître vont être des nations non seulement peu viables, et le Mali va être enclavé. Il va, comme on va le voir, rentrer dans une expérience de type socialiste qui va déraper. Mais surtout, le Mali apostrophe le peuple algérien, et ça a une grande importance dans ce qui va suivre, dans ces mots, Modibo dit « Frères d'Algérie, les milliers d'Algériens tombés dans les champs de bataille ne sont pas morts en vain. N'est-il pas vrai qu'ils viennent de rendre à notre beau pays, l'Afrique, une partie de sa terre depuis 50 ans spoliée? Qui peut encore l'ignorer? C'est grâce à vous, frères d'Algérie, par l'exemple des dignes pionniers que vous êtes, que les mouvements populaires africains se sont engagés dans la lutte pour la libération du sol national. Il fallait ici que justice vous soit rendue. Donc, dans la foulée de ces ancêtres valeureux, El Hadji Omar, Ahmadou Samori, la jeune génération est galvanisée et empêtrée déjà dans les méandres de la guerre froide et l'expérience socialiste qui a été boudée par le monde dit libre, les investissements se tarissant, les dépenses d'infrastructures, la rupture avec la zone franc, tout cela se fait avec une bureaucratisation de la société et le retour dans le giron de l'Union monétaire africaine en 1967 sonne déjà le glas du régime de Modibo Keïta qui résiste alors que se réduit la résistance autour de Ousmane Ba, Seydou Badian Kouyaté et Madera Keïta. Et la date fatidique du 18 novembre 1968, les militaires du lieutenant Moussa Traoré renversent ce régime et instaurent une dictature nationaliste avec un parti unique. Et évidemment, à ce moment, ce pays rentre dans la logique libérale, s'endette et subit les plans d'ajustement structurel. Donc désengagement de l'État, libéralisation accrue de sa filière de coton, plan d'austérité qui va aboutir, on le se rappelle, bien avant la Tunisie, à un printemps révolutionnaire. Donc une révolte qui va faire tomber Moussa Traoré, une révolte qui est d'autant plus importante qu'elle apporte la possibilité d'éclairer une des grandes contradictions, c'est-à-dire que malgré les investissements colossaux qui sont faits au nord, mais qui n'apparaissent pas parce que les conditions de pauvreté de ce pays et les conditions d'investissement font que la catégorie Touareg est nécessairement dépourvue des retombées non seulement du partage du pouvoir, mais des retombées du développement, une très grande frustration naît de cette période-là. Et elle est tout à fait symptomatique puisque la France, pendant toute la période coloniale, s'est employée, à mesure que l'Algérie allait en lutte de libération, de créer cette sorte d'Azawad qui est proclamée aujourd'hui par une association d'États pour s'assurer le contrôle exclusif de ces zones. Et beaucoup de personnes dans la classe politique française, autant militaires que des gens d'affaires, n'ont jamais renoncé à ce dessein. Et c'est ce qui explique que, quels que soient les régimes politiques qui vont succéder à Lisée et à Matignon, certains cercles France-Afrique, et parfois même l'impérialisme français, vont en sous-main soutenir les formes dissidentes, légitimes ou non, des sociétés Touareg. Et il faut rappeler ici que les Touareg ne sont pas que des locodermes, c'est-à-dire des Blancs, ils sont aussi Noirs, et que dans ces zones, il y a d'autres peuples que les peuples Touareg qui y habitent aussi. Et donc, c'est en réalité une mosaïque beaucoup plus grande, et le Mali n'a pas le monopole d'avoir plusieurs groupes ethniques non intégrés. La question ici, c'est faut-il soutenir la dissidence telle qu'on l'a soutenue au Sud-Soudan? Je veux vous rappeler, et c'est intéressant que Deo Akizemana rappelle ce qui s'est fait en 1996. En 1996, nous rédigeons un ouvrage collectif suite à l'implosion du cœur de l'Afrique en Afrique centrale. Et je vais vous lire la citation suivante. Les Africains doivent s'affirmer davantage. Jusqu'à présent, nos analyses et nos conseils n'ont pas été suivis par la communauté internationale. Les avis que nous avons pu émettre ont été discrédités pour des raisons de concurrence, tant par l'ONU que par l'Union européenne. On en discute en Europe et aux États-Unis de sujets qui auraient pu être traités à Bamako, Ouagadougou ou Dakar. Malheureusement, le sort des Africains, notre sort, reste débattu ailleurs que sur leur continent. Et les solutions ne sont pas trouvées. Si les Burundais ou les Rwandais n'arrivent pas à régler seuls leurs problèmes, ils doivent accepter que d'autres viennent les aider. Nous aurons peut-être demain besoin du même type d'aide à Bamako. Pourquoi cette aide ne viendrait-elle pas des Africains eux-mêmes? Celui qui parle en ces termes, et vous aurez probablement du mal à le deviner, a contribué à cet ouvrage collectif, à nos côtés, c'est Toumani Touré, le président putschiste du comité transitoire de salut public, qui avait signé un traité de paix avec les Touareg, conscient que l'autorité centrale avait négligé, et qui, à quelques jours de la fin de son mandat, s'est fait renverser par des mutins dont certains des chefs ont été formés par les Américains, comme beaucoup des Touaregs, dans un projet politique qui semble aujourd'hui inspirer une théorie du complot, mais qui fait partie du grand ballet dont nous voulons parler ce soir. C'est Toumani Touré qui a permis la transition pacifique vers les élections qui éliront Alpha Omar Konaré, avant de défroquer et de briguer lui-même avec succès ce mandat. À cette époque, comme pourrait en témoigner mon camarade, je préconisais Africa Pax, une force d'interposition africaine capable de régler les différends africains en autant qu'elle soit dotée de mandat des Nations Unies. Mais avec un bémol, car depuis la mort de Dag Hammarskjöld et le rôle des Nations Unies au Congo, l'ONU est instrumentalisée. Et hélas, la question de la responsabilité de protéger qui viendra beaucoup plus tard dans l'ère de la mondialisation est fortement questionnable parce qu'elle est de deux poids, deux mesures, selon que les intérêts dominants soient ou non dans la sellette. Les Américains se sont fait l'avocat de l'Africom à la place de Africa Pax. Ils font les yeux doux à quelques régimes africains compradors pour l'abriter. Et il faut expliquer pourquoi le Mali n'a pas été capable non seulement de juguler à la faveur d'un immense dispositif, et il faut parler de ce dispositif, c'est l'irruption sous le régime Sarkozy, bien après les épisodes de Mano Dayak et ceux du Niger, de forces Touareg soutenues par le régime Sarkozy, par la Mauritanie, qui se sont infiltrées par cet espace-là, qui ont établi des camps avec plusieurs arrière-pensées, pour certains une sorte de Sahélistan, d'autres la perspective de créer effectivement, de façon intègre, un mouvement de libération nationale pour l'Azawad, et d'autres, et là ça frise la théorie du complot, qui semble avoir des dessins beaucoup plus sombres, c'est-à-dire l'utilisation du djihad islamique à des fins soit de conforter l'impérialisme et la question sécuritaire, ou la perspective de lutter contre l'Occident. Et là, une petite digression s'impose. On ne peut pas parler des talibans soudanais, des chebabs somaliens, de la lutte en Afghanistan, sans parler de la façon par laquelle ont été instrumentalisées ces forces pendant toute la période des années 70 et 80. C'est-à-dire qu'on a créé des Frankenstein sur un terreau, on sait pertinemment qui les a soutenus. Et donc, il n'est pas surprenant que Sarkozy ait flirté dans l'épisode libyen avec les Mauritaniens, pour soutenir certaines de ces forces, soit ACMI, et ça reste à être démontré, comme je l'ai dit, à la faveur de la très éminente question israélo-palestinienne. Pendant ce temps, alors que le Mali est fragilisé et que seule l'Algérie aurait pu réagir, mais l'Algérie sort d'un syndrome, comme vous le savez déjà, de plus d'une dizaine d'années de guerre fratricide qu'on peut analyser comme une forme déviante de guerre civile, toujours est-il que l'Algérie ne pouvant pas agir, c'est au Mali, effectivement, que la portion vulnérable du système va être testée. Au Mali, pourquoi ? Parce que le tandem de Bretton Woods au nom de la mondialisation a ajusté le pays en réduisant, comme je l'ai dit, l'État. Cette dérégulation, ce dessaisissement a complètement dessaisi le Mali. Des avocats canadiens sont dépêchés pour la réfection du code minier du pays. C'est une caricature du modèle canadien. La table est mise. La bourse de Toronto peut se repaître. Le pays est asphyxié, démembré par les multinationales minières, AngloGold sous sa filiale Moriya et Bouygues sous Somadex, et un cortège de multinationales juniors qui racle tout ce qui est rentable. L'espace, on se rend compte, regorge non seulement d'eau, regorge d'or, regorge d'uranium, qui irradie jusqu'à la zone du Niger, dont dépend, comme on le sait, le tiers de l'alimentation électrique de la France. Tout a été bradé. Toute la filière coton, une compagnie canadienne obtient pour une bouchée de pain la compagnie de chemin de fer Mythique pour 107 millions de francs. Mais revenons à ce rapport conflictuel, c'est-à-dire cette situation où, un peu comme les loups, et je m'excuse de l'image si elle peut heurter, qui luttent en bande, mais qui sont rivaux, les pays qui sont de l'OTAN, et ici principalement les États-Unis et la France, sont affectée par deux phénomènes. Le premier, c'est que malgré la déclaration de Paris, la coopération internationale, qui d'ailleurs n'en a jamais été une, a échoué. Et en échouant, ces pays qui sont sous perfusion, qui sont sous les documents stratégiques de réduction de la pauvreté, alignement, efficacité de l'aide, etc., tout ce verbiage, sont maintenant sous la perspective de pouvoir avoir d'autres formes de coopération. Des pays émergents, la Chine, l'Inde, qui offrent des subsides trébuchantes, moyennant construction d'infrastructures et grande rapacité et voracité sur les ressources. Et donc, nos régimes compradors, qui ont renoncé à une option panafricaine, ont pour la fois, au nom d'une coopération sud-sud, la perspective de changer. Et ça, ça inquiète particulièrement le rameau de l'OCDE et son bras musclé aux stéroïdes, l'OTAN. Et donc, c'est là que arrive la situation très complexe qui est, y a-t-il un lien avec le nouveau pavage étatique qui se passe en Orient, c'est-à-dire la fin des autocraties arabes, la fin du régime de Ben Ali, la fin du régime de Moubarak, la tentative de freiner ces révoltes qui ne sont pas des révolutions et de freiner ces avancées révolutionnaires en imposant des régimes rétrogrades islamistes qui acceptent la poursuite du projet néolibéral, en notant que ne soit pas remis en question le dispositif occidental, mais qui ont cette fois-ci la douce revanche de prendre le pouvoir dans un dispositif un peu turc, si on peut caricaturer, ou, et c'est là que la question est plus sensible, dans une perspective de division qui n'est pas sans rappeler le début des khalifas, donc rupture entre chiites et sunnites, rupture entre formes radicales au sein même du sunnisme sur la perspective de la construction de ce grand espace khalifa mondial par le djihad. Et là, il y a des électrons libres, il y a des groupuscules nombreux, des Frankenstein nés de la stratégie sécuritaire après le soviétisme, et d'autres qui sont tout à fait spontanés et qui croient. C'est pour ça que le fait de vouloir les traduire comme de simples trafiquants et des marchands d'armes, etc., est une réduction du phénomène. Il s'agit de projets politiques aussi qui luttent contre le sécularisme du marché, qui est une sorte de religion, et qui arbore, parce qu'il y a une perte de sens, d'autres valeurs, parce que l'occidentalisation et le développement a échoué, et le terreau fertile va faire que des gens sont convaincus qu'il peut y avoir des alternatives au modèle occidental. Et ça, nous ne voulons pas le voir, y compris dans la gauche, qu'il y a, dans les sociétés africaines, des gens qui vont donner leurs propres enfants dans ces mouvements, parce qu'ils croient à cette option obscurantiste, qui est en fait le retour du sens, là où le sens n'existe plus. Parce que là où le sens n'existe plus, c'est la société managériale, déshumanisée, que la mondialisation impose. Voyons les choses telles qu'elles sont, avec un projet de développement qui est basé sur l'échange exclusivement et qui détruit les relations sociales et l'environnement pour le profit. Et donc, c'est clair que ce développement ayant échoué, ne pouvant pas concrétiser et uniformiser, on se retrouve dans une position où il faut vendre l'option sécuritaire. Et c'est ce que le grand projet, comme je le disais, de lignes de fracture entre cet Orient en repavage et cette Afrique sans les Africains pourrait être une théorie du complot à laquelle je n'abonde pas, mais qui a quand même des éléments très troublants. D'abord, ce plan du Moyen-Orient esquissé il y a déjà plus de 90 ans que Susan Rice a rappelé en 2003, mais depuis l'attentat de 9-1-1, non simplement on a vu l'apparition de la Pan-Sahelian Initiative très vite agrandi à d'autres pays dans la sous-région, le projet Trans-Saharan Counter-Terrorism Initiative, dans lequel le président Touré va lui-même participer, il a fait les manœuvres avec elle, loin de se douter du complot qui se tramait. Non seulement les Américains ont formé certains des Touaregs de l'armée qui feront défection ou iront en Libye, mais ils ont aussi formé celui-là même qui renversera Toumani Touré, le capitaine Sanogo, une pâle caricature de Sankara, et la gauche frustré du Mali, va d'ailleurs s'engouffrer dans cette brèche en soutenant cet acte. Et c'est là que la question du complot arrive. Est-ce que c'est à dessein que ce coup d'État est fait pour provoquer l'embargo, ce qui va dire que le Mali va avoir toutes ses capacités de défense freinées par l'embargo, donc le Mali ne peut plus se défendre. Donc le coup d'État fait partie lui-même de la question du redéploiement de l'OTAN dans la zone, ou bien est-ce que le coup d'État vient pour, justement, couper l'herbe sous le pied de la reproduction de l'ancien régime Toumani Touré, ça, seule l'histoire le dira. Toujours est-il que c'est ce coup d'État qui amène, à ce moment, l'instrumentalisation des formes institutionnelles du système des Nations Unies. C'est-à-dire que le multilatéralisme est appelé à la rescousse. Il faut protéger ces populations. Personne ne peut s'objecter sur le fait que les exactions perpétrées par ces populations obscurantistes, je dis bien population, et les gens qui les instrumentalisent, n'étaient pas viables. Il n'est pas question d'avoir une partition du Mali. Il n'est pas question de voir y naître des formes obscurantistes. Et la question, évidemment, ici, c'était de choisir entre la peste et le choléra. Les gens se sont dit, mais le choléra, on peut en guérir. La peste, ça, c'est grave. La France, elle est déjà là. La France n'est jamais partie. Ceux qui pensaient que la France est partie parce que la base au Sénégal était fermée, c'est une grave erreur. La France a un dispositif de déploiement rapide qu'elle a très bien développé dans la crise de la Côte d'Ivoire, qui, avec celle de la Libye, sont derrière le phénomène que nous avons aujourd'hui. Ce sont les conséquences de cela. La France peut développer dans le dispositif de l'OTAN avec les États-Unis, à partir de Djibouti, une rapidité d'avancée. Et la plupart de nos pays ont des clauses annexes dans leurs accords de défense, qui sont des clauses cachées dans les indépendances négociées. Accords portuaires, accords aéronavals, formation, logistique, toute une batterie. Même l'Algérie a dû accepter que son ciel aérien soit traversé par les forces françaises. Ce qui pose la question, évidemment, ici de l'Algérie dans ce dispositif américain. Est-ce que cette fin de régime algérien est liée par une sorte de connivence des services de renseignement algériens avec certaines des nébuleuses djihadistes pour justifier l'impact sécuritaire et donc donner davantage de pouvoir aux forces militarisées? C'est encore quelque chose qui peut se vérifier avec les événements de Amenas. Ou est-ce que c'est tout simplement un hasard, c'est-à-dire que les forces proches de Belmokhtar ont eu des complicités, mais les services secrets algériens n'étaient pas dans la confidence? Toujours est-il que l'Algérie, sachant exactement tout ce que je viens de vous expliquer, a opté pour une solution négociée du problème malien. Elle a été ignorée, comme la plupart des gens qui ne voulaient pas que cette guerre s'installe. Parce que personne n'a d'intérêt à ce que cette guerre s'installe. Et donc l'instrumentalisation de la responsabilité de protéger allait jouer, comme on a vu dans le cas des insurgés de Syrie et Naïque contre Kadhafi. Et là, on a vu naître un triangle de soufre avec la Mauritanie, une nébuleuse complexe où s'agitent des services algériens, des intérêts pétroliers, uranium, émirati, qatari, des hordes composites de Touareg, des djihadistes divers. Et depuis l'attentat de Madrid en 2004, la politique française de flirt et de containment avec le terrorisme s'affirme. La France est consciente que non seulement il ne faut pas que les espaces nucléaires dont elle est si dépendante au Niger et les sources importantes de terres rares et de pétrole et de gaz, d'eau, de la Mauritanie, de l'Algérie, de la Libye et du Mali ne soient compromis par l'aventurisme de ses propres initiatives. Là, je parle du groupe libyen combattant islamiste lié à Al-Qaïda, qui combat aussi aujourd'hui en Syrie, après avoir fait ses basses besognes en Libye. Et, évidemment, le président Abdelaziz, qui a participé à cela, et qui d'ailleurs s'est fait tirer par ses propres troupes alors qu'il allait voir ce qui se passait dans la zone. C'est pour vous dire le professionnalisme de tous ces amateurs-là. Mais bon, toujours est-il qu'il a été sauvé in extremis en France. Depuis que il y a eu les attentats de deux Français imputés à des djihadistes d'Al-Qaïda, c'est l'année où Al-Zawahiri, le numéro 2 présumé d'Al-Qaïda, parle de liens consolidés entre Acmi et les islamistes libyens, Belhaj et consorts. L'attentat kamikaze de 2009, qui a considérablement rapproché les services de renseignement maures, israéliens et français, tout cela vient réveiller l'encadrement de ce grand projet qu'avait proposé un député africain, Oufoué Boigny, porte-parole de la France de ce projet. Et il est clair que le projet de l'Organisation commune des régions sahariennes, qui a été démantelé après les indépendances négociées, est resté sur la sellette. Donc Sarkozy, comme à l'époque de De Gaulle, avec le plan Mesmer contre les Américains, fait mine de travailler main dans la main, mais pense pour la France ou pense pour la France-Afrique. S'il n'y a rien de nouveau, on a connu ça déjà dans le passé. Les Qataris, je crois qu'il faut qu'on ait une réflexion sur le pouvoir wahhabite et qatari dans cette histoire-là. L'imbrication des capitaux de ces pétromonarchies dans le dispositif occidental, mais dans ce qui se passe en Afrique, est tout à fait surprenant. Le Qatar a favorisé Ansar Eddine contre le MLNA, a débauché bien des électrons atomisés. Fâché, Abdelaziz a fait des remontrances à l'émir du Qatar, qui l'aurait menacé en retour de répandre les foudres médiatiques de Al Jazeera sur son pays. Et tout cela va faciliter le rôle de Hollande, qui effectivement a besoin, du fait de la crise économique qu'il y a en Europe, du fait de l'incapacité de toute façon pour le Parti Socialiste d'atteindre son taux de croissance. Tout le monde le sait, la guerre fait partie des moyens de revigorer le capitalisme. Et donc, c'est tout à fait normal que celui que beaucoup de Français pensaient mou réaffirme la position de la France. La France est dans son espace naturel, c'est son précaré. Mais ce précaré, les Maliens n'ont pas de dette à la France. Ce sont les Maliens qui ont fait les bases bolognes de la France, en Indochine, à Madagascar. Ce qu'on appelait les tirailleurs sénégalais, c'était principalement des Maliens. C'est les Maliens qui vont faire l'économie de la France aussi, avec les Algériens. Toutes les pénibilités de tâches en France. Donc la dette, elle est de la France vers le Mali. Et aujourd'hui, les Maliens qui veulent que soient restaurés les parchemins de Tombouctou, que ces gens-là ne peuvent même pas comprendre en les détruisant. C'est comme quelqu'un qui a fait de l'arithmétique à qui on donne des tables d'astrophysique. Il ne peut pas les comprendre. C'est des gens qui sont obscurantistes et on ne peut pas leur le reprocher parce qu'ils n'ont pas la culture de comprendre cette sophistication. Mais par contre, les Maliens qui s'objectent contre la partition de leur pays, on comprend aujourd'hui qu'ils soient divisés. Et c'est là que la question de la gauche au Mali doit être posée sur est-ce qu'il faut véritablement cautionner le régime en place, un régime qui a défait, et non seulement le Premier ministre, mais remplacer ce Premier ministre, un régime qui n'est pas capable de tempérer la zizanie, qui paralyse les forces maliennes, puisqu'il y a cet attisement qui est fait, et surtout, un régime qui ressemble, à s'y méprendre, à ceux de la sous-région. Rappelons que la pièce maîtresse après la Mauritanie, c'est Blaise Compaoré. Et je ne le dis pas parce que je lutte contre Blaise Compaoré, mais parce que Blaise Compaoré représente l'édifice de la France-Afrique dans la région, l'endroit par lequel la France a pu reconquérir la Côte d'Ivoire en 2011. Et donc, c'est par dessein qu'on a bloqué les munitions, les armes lourdes dans les ports de Dakar, au Sénégal et en Conakry, pour empêcher les forces maliennes de pouvoir résoudre le problème de ces djihadistes, qui, je le rappelle, ne sont pas que des groupes terroristes, criminels, trafiquants et contrebandiers. Il n'est pas question de voir naître ce sahéliste. Ce qu'il y a en jeu aujourd'hui dans la crise tunisienne, et j'aimerais dire quelques mots, c'est exactement ce qu'il y a en jeu pour toute la question de la souveraineté de nos pays. Au moment où on se parle, la Tunisie est paralysée. Elle est paralysée par son propre dispositif constitutionnel et électoral. Narda est paralysée elle-même en son sein, parce que les franges radicales rétrogrades, qu'elles soient soutenues par les réseaux salafistes ou par leurs propres obscurantistes, ne peuvent pas supporter une séparation de l'État et de la religion. Mais on ne peut pas le reprocher parce qu'il n'y a pas de séparation de l'État et de la religion en islam. Pour les occidentaux ou les laïcs, ce n'est pas possible de le comprendre. Mais pour les musulmans, c'est tout à fait logique. C'est dans la matrice même de la conception de l'État que le religieux fonctionne. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a une économie politique du fondamentalisme. Mais, comme je dis, là où l'Occident a échoué dans son projet de développement, le fondamentalisme religieux arrive. Et le deux poids, deux mesures, ici, est tout à fait préoccupant. Hollande va faire son discours des droits de l'homme dans un pays arriéré, rétrograde, obscurantiste, mais pourtant qui est dans la pointe de la modernité, qui peut s'acheter les armes de pointe, tout en défaisant tous les éléments des droits de l'homme. Et je dis que ce discours que je tiens n'est pas un discours contre la France. La France reste et demeure la patrie des droits de l'homme. L'horizon indépassable des Lumières, la modernité, elle est devant nous. Elle n'a pas été atteinte nulle part. Liberté, égalité, fraternité, c'est encore notre horizon. Mais aucun de ces axiomes ne peut fonctionner sans l'autre. Et donc, pour nous, lorsque nous disons que ce qui se passe au Mali est éminemment dangereux, il ne faut pas tomber dans le délire de la lutte fratricide civilisationnelle, qui n'existe pas, qui est un faux débat. Il ne faut pas tomber dans le discours culturaliste et religieux, parce que c'est là justement où on veut amener la crise. Et je dis, la question israélo-palestinienne, le pavage étatique qui est en cours dans tout l'espace, doit nous amener à nous questionner. Par exemple, comment les Américains peuvent soutenir deux États kurdes en Irak et soutenir en même temps la Turquie? Ben, c'est ce genre de contradiction qui va arriver aussi chez nous. Donc, ils sont capables de faire les deux poids, deux mesures. Et donc, comme des loups qui luttent en horde, les Africains sont condamnés à comprendre que l'OTAN, l'Africom, ne peut pas prendre le contrôle de nos sociétés. Et c'est à nous, d'abord aux Maliens, aux Africains, de nous défendre. Nous l'avons fait dans les luttes contre l'apartheid, nous l'avons fait dans les luttes de libération nationale, nos parents et nos ancêtres l'ont fait. Ici, ce n'est pas un discours de belliqueux, c'est un discours de souveraineté. Lorsque les communistes, en France, s'interrogeaient de savoir, chez les forces françaises libres, faut-il ou non participer avec les Américains à la libération de la France, on avait dépassé la question idéologique. Moi, ce que j'appelle, c'est l'internationalisme. Que signifie l'internationalisme dans une ère transnationale? Est-ce qu'il y a encore parmi nous cette valeur, la lutte des peuples du monde entier au-dessus de la question nationale? Dans une rupture avec un capitalisme prédateur et qui refuse l'ordre des oligarchies du monde. L'ordre des oligarchies du monde, il astreint toutes les sociétés au même phénomène. C'est la resurgence du fascisme dans vos propres sociétés. C'est la resurgence des formes obscurantistes du sens dans les sociétés où le développement ne peut pas s'épanouir. Et donc l'internationalisme est la seule solution pour le 21e siècle. Mais il faut que nous ayons le courage de nous rendre compte que certaines de ces acceptions ne sont plus compatibles avec ce que j'appelle le supra-impérialisme, c'est-à-dire les formes tout à fait nouvelles que le redéploiement et l'imbrication des capitalismes différents ont fait avec l'ordre oligarque mondial. Et c'est ce supra-impérialisme qu'il faut étudier pour bien dessiner les frontières de cet internationalisme. Seul l'internationalisme nous empêchera de voir une instrumentalisation et le fait de rendre caduque le système des Nations Unies. Ça a déjà commencé. Par exemple, le G20 a un système de régulation de l'ordre mondial sans en avoir le mandat démocratique. Les derniers espaces qui nous concernent, le bien commun, sont déjà investis par la mondialisation marchandisée. Comment allons-nous faire sans internationalisme pour les défendre? Comment pouvoir tenir un discours pacifique aujourd'hui sur cette question du Mali, sur le droit des dignités des peuples d'Afrique du Nord d'aspirer à autre chose que l'autocratie qu'on leur pose sans internationalisme? Comment ne pas poser le problème des enrichissements illicites, de l'impunité, des deux poids, deux mesures du droit international sans internationalisme? Et je crois que nous devons essayer d'infléchir le multilatéralisme qui est en panne avec cette valeur en la revisitant. Voilà pourquoi j'ai essayé davantage de parler plus avec mon cœur, parce que cette question-là, elle n'est pas rationnelle. Les gens qui sont aujourd'hui sur le front, les gens qui se divisent, vivent dans leur chair cette division. Et hélas, autant que la religion, qui est un problème irrationnel, je crois qu'il y a une dimension de croyance dans l'internationalisme, c'est-à-dire que nous devons croire qu'il est possible d'avoir une conscience. Et je crois que Jean Zickler, qui est un ami de beaucoup d'entre nous ici, nous a bien instruits sur les trois niveaux de conscience. Et ces niveaux de conscience, lorsqu'on les acquiert, l'être humain est capable de sentir dans sa chair ce qu'éprouvent aujourd'hui les Maliens, ce qu'éprouvent les Tunisiens qui viennent de perdre Chokri. Et surtout, l'idée qu'il n'est pas possible de laisser la guerre diviser nos rangs et diviser cette humanité. Voilà pourquoi ce Malistan et ce Sahelistan ne doit pas aboutir à ce qui est aujourd'hui le Soudan anglais, Voilà pourquoi il faut absolument que l'Afrique se ressaisisse et que l'Union africaine prenne le contrôle de cette situation. Et il faut qu'il y ait un audit sur toutes les transactions minières à venir des firmes multinationales, principalement de la France, dans la sous-région. Et en ce sens, peut-être que la Suisse, une autre Suisse qui serait plus neutre, mais moins partie prenante, aura sa voix. C'est-à-dire qu'ici, dans le système des Nations Unies, on pourra peut-être sauver ce qui reste par une démocratisation de nos instances. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vous remercie.